Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Le Pied dans la Porte. Alors aujourd'hui j'ai deux invités, pas des moindres, et en premier invité nous recevons Jean-Jacques Nathiez qui est ethnomusicologue, qui est professeur émérite à l'Université de Montréal, qui vient nous présenter son livre qui s'appelle La musique qui vient du froid, art, chant et danse des Inuits. Et je peux vous dire, pour l'avoir rencontré au Musée des Beaux-Arts, puisqu'il y a dans le pendant de ce livre une exposition qui a lieu aussi au Musée des Beaux-Arts qui s'appelle Tussanir Tut, j'espère que je prononce comme il faut, un monsieur passionnant qu'on va voir dans un instant. Mais notre deuxième invité est avec nous, c'est l'auteur-compositeur, lui il est ici dans le studio, c'est l'auteur-compositeur-interprète Larche pour son nouvel album Il était une fois un garçon comme toi.
Bonjour.
Sauf que moi, je ne suis pas un garçon, mais j'ai écouté et j'ai aimé ça, mais on en parle en deuxième partie de
l'émission
tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on va entendre un petit peu de chant de gorge, d'accord ? Et on se retrouve tout de suite avec Jean-Jacques Nathiez. Alors nous sommes maintenant avec Jean-Jacques Nathiez. Bonjour Jean-Jacques Nathiez.
Bonjour à vous.
Alors je disais il y a un instant que vous m'aviez fait faire, enfin vous nous aviez fait faire à ce moment-là une visite absolument extraordinaire au Musée des Beaux-Arts en racontant ce qu'on peut retrouver dans ce merveilleux livre qui s'appelle
Merci.
La musique qui vient du froid, art, chant et danse des Inuits. Alors qu'est-ce que vous avez à nous raconter là-dessus? Comment ça s'est passé? Parce que c'est une recherche qui est absolument énorme que vous avez faite.
Oui, ben, écoutez, lorsque je suis arrivé au Québec en 70, je travaillais comme musicologue sur des compositeurs bien connus, Wagner, Debussy, Mozart, etc. Mais je voulais appliquer mes idées en matière de théorie et d'analyse musicale à de la musique autochtone, à de la musique traditionnelle. Alors je me suis renseigné, et vous voyez ça remonte à loin, hein,
ah oui.
Années 70, je me suis renseigné auprès d'un des anthropologues de l'Université de Montréal, qui est décédé malheureusement, mais qui était très connu dans le milieu, qui s'appelle Hassen Balixi, qui a écrit un très très beau livre sur la musique d'une des ethnies inuites qui sont les Netsilik. Et on m'avait dit, écoute, va le voir, il a peut-être des choses qui t'intéresseraient chez lui. Alors il m'a reçu et il m'a fait entendre des chants de gorge enregistrés à Pouvernetok, qui est une des localités culturellement importantes du Nunavik. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, et je pense que les auditeurs et auditrices qui viennent d'entendre l'extrait, que d'ailleurs vous avez remarquablement bien choisi...
Merci pour notre technicien.
Oui, non, mais je vais vous dire dans un instant pourquoi il est bien choisi. Mais donc j'ai entendu, j'ai été absolument fasciné par cette musique qui ne correspond à rien de ce que l'on connaît dans la civilisation occidentale. J'en ai fait entendre à des étudiants de mon cours de musicologie à l'université, et ils m'ont tout de suite, on a convenu que cette musique mériterait de faire l'objet d'une étude approfondie. Alors c'est à partir de ce déclenchement que j'ai constitué une équipe de recherche. On a travaillé en collaboration avec des chercheurs et avec des collègues de l'Université Laval, où il y a un très important département d'anthropologie, dont une grande partie consacrée à la culture inuite. Et c'est comme ça que ça s'est déclenché. Donc c'était dans les années 70. On a fait de nombreux voyages entre 70 et 80. Moi-même, à un moment donné, j'ai décidé d'étendre ma recherche en allant en Sibérie parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des champs de gorge aussi en Sibérie.
Oui, parce que c'est là, ça fait Alaska, Groenland, en passant par le Canada, Sibérie, enfin vous avez fait... Allez-y, excusez-moi, je vous entends plus.
Ben moi non plus, je vous entendais plus.
Ah d'accord.
Oui, j'ai fait ces voyages, j'ai étendu la recherche, ça a constitué énormément de matériel. Et ce qui s'est passé, qui explique un peu la situation actuelle, vous avez la gentillesse d'avoir apprécié l'exposition qui est encore actuellement au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est que pour me créer un environnement esthétique dans mon bureau à la maison pour analyser ces champs de gorge, je me suis mis à faire une petite collection d'œuvres d'art inuit, des sculptures et des estampes, et puis qui a grossi, jusqu'à ce que je rencontre fortuitement d'ailleurs Nathalie Bondil,
oui,
qui était la directrice du musée avant la pandémie. Et le hasard a voulu que lorsque je l'ai rencontrée, j'ai avec moi le catalogue de ma petite collection qui avait été établie par une étudiante en muséologie.
C'est ce que j'ai lu.
De l'Université du Québec à Montréal. Et Nathalie Bondil a dit « Ah, mais c'est très intéressant ». Et en 5 minutes, après avoir feuilleté ce petit catalogue, elle a dit « Faisons une exposition ». C'était incroyable.
Est-ce que vous avez tout ce qui est exposé, il y a quand même une grande partie qui est à vous?
D'ailleurs, c'est bon, comme toujours dans les expositions, on indique collection de Jean-Jacques Nattier ou collection d'autres personnes, etc. Oui, je me suis pas amusé à compter, mais il y en a un certain nombre. Parce que c'était le point de départ, et l'exposition s'est organisée autour de ces œuvres. Voilà. Alors ça a été ça le cheminement. Et alors quand j'ai vu que donc évidemment l'exposition a été retardée par la pandémie.
Oui, bien sûr.
Et lorsque le musée a rouvert, alors on m'a recontacté, la nouvelle équipe du musée autour de Marie Desmarais m'a recontacté et est-ce que vous voulez reprendre le projet, etc. J'ai dit oui, bien sûr. Et c'est ce qui a été inauguré au mois de novembre. Et alors, ce qui s'est produit, c'est que pendant toute cette période pandémique, ça m'a laissé du temps pour, dans la foulée, travailler au livre que vous avez entre les mains.
Qui est magnifique, 500 pages.
Je vous remercie. Oui. Je dois dire, puisque vous le qualifiez de magnifique, c'est vrai que j'ai eu des premières appréciations de chercheurs ou d'anthropologues qui l'ont lu déjà en totalité ou en partie. Mais rien que avant même de lire le texte, je dois dire que je veux souligner le rôle incroyable qu'ont joué les presses de l'Université de Montréal. Parce que vous l'avez vu, c'est un livre en couverture cartonnée, en papier glacé. Il fait quand même 488 pages.
Oui, je suis allé jusqu'à 500, mais il a fait 488.
Il en fait 488, pour être précis. Vous pouvez imaginer l'investissement que c'est que de faire un livre de cette épaisseur, de cette...
Oui.
Voilà. Et même... il ne faut pas oublier, il y a à peu près 200 illustrations en couleur dans ce livre, et il fallait évidemment acheter les droits de reproduction, ce qui s'est fait du reste en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Il faut avoir le livre dans sa bibliothèque et quand même aller voir l'exposition au Musée des Beaux-Arts, parce que c'est tout à fait autre chose. Quand vous parlez
Oui, on peut faire un aller-retour entre l'expo et le livre. Et si effectivement on veut creuser, parce qu'une exposition, ça n'est pas le contenu d'un livre. Dans un livre, on peut donner des détails, ce que j'ai fait. Et là, on a essayé avec mes collaboratrices de mettre l'accent sur les grands traits de ce qu'est la musique des Inuits pour que les visiteurs et les visiteuses en aient une bonne idée.
Justement, quand vous parlez des chants de gorge, des chants des Inuits, vous parlez, chants et chamanisme étaient indissociables, dites-vous.
Oui, dans le passé. Je souligne ça. Dans le passé, si ça m'est déjà arrivé de raconter ce lien entre chants de gorge et chamanisme à des gens de la nouvelle génération, disons des... c'est essentiellement par les témoignages de gens très très âgés, de Pouvirnétuk d'ailleurs, disons qui avaient à l'époque, quand je les ai interviewés, 60 ou 70 ans, c'est là que les propos qu'ils tenaient laissaient penser qu'il y avait eu dans le passé, c'est-à-dire au 19e siècle, un lien entre les chants de gorge et le chamanisme. C'est-à-dire, je vous faites un chant de gorge avec votre copine, c'est non seulement pour s'amuser, puisque c'est un jeu essentiellement, mais vous faites ça non seulement pour vous amuser, mais pour agir sur l'esprit des animaux ou sur l'esprit de l'air, de l'eau, etc., afin que les
maris chasseurs,
Inuits, que les maris chasseurs aient une bonne chasse ou une bonne pêche. Il y a eu un lien que j'ai avancé entre les chants de gorge. Mais si vous parlez de ça aux nouvelles générations, surtout que maintenant elles font du chant de gorge dans des spectacles dont la forme s'apparente à ce que nous connaissons dans l'Occident, c'est-à-dire un tour de chant devant un micro, etc. etc. D'ailleurs, le mot chant a été utilisé il y a à peu près une quinzaine d'années, mais auparavant, on parlait tout simplement de jeu de gorge. Mais le terme n'est pas resté, et à cause de la présence des chants de gorge dans des spectacles sur scène, eh bien, c'est l'expression chant de gorge qui, dans notre langue, a prévalu.
Oui, alors qu'avant, c'était un jeu qui était... c'était celui qui arrivait à faire rire l'autre et à gagner.
Voilà, c'est toujours en partie, c'est toujours considéré comme un jeu, plus ou moins, mais cette dimension du chamanisme, elle, dans l'esprit des gens de la nouvelle génération, s'est estompée.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute un autre extrait?
Ah, mais volontiers. Ce qui était très intéressant, ou alors vous voulez que je commenterai celui que vous allez passer maintenant, mais ce qui était très intéressant dans ce que nous avons entendu tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on voyait bien qu'au bout d'un certain nombre de répétitions d'une même formule, il y avait passage à autre chose, à une sorte de deuxième phrase qui à nouveau était interrompue. Alors, cette succession de phrases différentes vient de ce qu'une des deux femmes, et c'est pour ça que c'est un jeu, une des deux femmes peut décider de changer de motif, et il faut que sa copine la suive. Si elle ne la suit pas, elle perd le jeu. Et généralement, les chants de gorge se terminent par des éclats de rire entre les deux femmes, parce qu'on fait ça pour s'amuser, et on ne le fait pas pour rendre mal à l'aise la copine avec laquelle on a fait le chant de gorge.
Alors, il est bien entendu que vous ne parlez pas que de ça, vous parlez de plein de d'autres choses dans votre livre, mais c'est pour donner une idée dans le temps de notre entrevue. Donc, on en écoute encore un extrait.
Volontiers. Nap
Voilà, donc il faut qu'on sache, on est de retour avec Jean-Jacques Nattier, il faut qu'on sache que dans votre livre, puisqu'on arrive vers la fin de cette entrevue, dans ce superbe livre qui ne fait pas tout à fait 500 pages comme vous nous l'avez dit, mais il y a des reproductions d'art, il y a des sculptures, il y a des dessins, il y a des estampes, et puis aussi il y a les danses à tambour dont on n'a pas le temps d'en parler aussi, il y a plein de choses à voir et les danses à tambour c'est aussi magnifique.
Merci. Moi, on a eu dans l'extrait que vous venez de donner une bonne. On a eu deux jeux successifs en fait, parce que dès que le premier a été fini, vous avez entendu les rires,
oui.
Parce qu'il y en a une des deux qui a dérapé. Et ce qu'on entend très bien dans cet extrait, c'est qu'il y a à la fois des passages qui ont au fond une espèce de tournure mélodique, et puis on en a d'autres qui sont des sons graves. Et c'est l'alternance de ces sons qui sont faits par les deux femmes qui crée cette spécificité et même cette difficulté du jeu chant de gorge qui exige beaucoup de virtuosité.
D'accord. Alors, il y a plein de choses à apprendre et à voir et surtout, aller aussi également acheter ce livre, aller au Musée des Beaux-Arts.
Merci
et
beaucoup.
Puis, moi, j'ai eu la chance que la visite soit faite par vous. Donc, je vous en remercie beaucoup parce que vous êtes un homme passionnant et passionné. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Voilà.
Ben, donc, merci infiniment de votre invitation.
Bonne continuation, Jean-Jacques Nattier. Merci beaucoup à vous.
Merci, au revoir.
Alors maintenant, on va écouter la chanson de l'Arche. Et Mathieu est à jour et se met comme il faut, on va écouter l'extrait. Allez, c'est parti. Merci.
Dormais, je suis sorti du lit et j'ai cherché ailleurs plus beau meilleur. Pendant que tu dormais, moi je tournais en rond. Je me suis étourdi dans mon insomnie. Savoir.
Alors voilà. Tu nous en parles de cette chanson, de ce nouvel album, L'Arche, que j'avais reçu il y a quelques années maintenant.
Oui.
Avant, dans l'avant, il y a eu l'avant et l'après. Et alors, c'était dans l'avant.
Puis c'était juste avant le début de l'après, si je ne me trompe pas. C'est ça, septembre 2019. je venais de sortir un EP. Puis quelques mois après, ben, il s'est passé ce qu'on sait. Fait que, voilà.
Alors, j'ai envie de te dire, bon, d'accord, on y est tous passés, mais qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans ta vie à toi jusqu'à aujourd'hui pour arriver à cet album?
J'ai eu du temps et le temps a bien fait les choses pour moi. Je suis quelqu'un qui a un processus de... Ben, j'aime ça avoir du temps. Je dis pas que j'ai un processus lent, mais j'aime prendre le temps dans la vie. Et puis je travaille autonome, je suis auteur-compositeur, aussi comédien. Puis des fois, il faut que j'accepte toutes les petites gigs pour réussir à faire un salaire qui a de l'allure et tout ça. Puis quand tout s'est arrêté, ben là, j'avais du temps pour me plonger complètement dans l'écriture de chansons. Puis j'ai été chanceux à ce moment-là. J'ai reçu mes bourses de création puis tout ça. Donc j'avais vraiment une raison de plonger dans mon projet puis de travailler sur des nouvelles chansons. Puis je savais que je voulais faire un album complet parce que j'avais sorti quelques EP, des mini-albums, les années d'avant. Puis là, puis il reste que moi, je suis un vrai consommateur de j'aime l'album. Avec sa courbe dramatique, que je suis pas un gars de playlist, j'aime vraiment écouter un album dans son entièreté. Fait que c'est ça, je me suis lancé là-dedans dans l'écriture de ces chansons-là.
Alors, dans celle-ci, il y a eu quelques... j'ai envie de dire quelques changements par rapport à ce que je t'avais entendu faire juste avant. C'est donc une vision de ta vie différente, enfin...
J'aimerais ça savoir les changements que tu as remarqués. Je te relance la balle.
Parce que là, dans cet album, enfin, j'ai pas écouté toutes les chansons, mais quelques chansons que j'ai écoutées m'ont semblé un petit peu plus... comment je dirais? Un petit peu plus... Pas nostalgique, mais un petit peu plus... à réfléchir sur des choses, tu vois, sur la vie, de façon plus intense. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé.
Peut-être ça vient du temps, justement, parce qu'on avait le en tout cas, moi, j'ai eu le temps de... J'ai arrêté de dire le mot « temps », là. J'arrête pas de dire « temps », mais bon, c'est temps.
La prochaine
ça,
fois,
ça vient
tu mets un
chercher.
Dollar chaque fois que c'est tu ça. Dis, tu le diras.
C'est vrai ça que vient... c'est temps.
C'est ça vient de temps me chercher, tout ça. Mais bon, il y avait comme l'espace pour avoir des réflexions. Puis au début, moi, j'avais l'impression que c'était un album qui était plus loin de ma personne parce que je m'amusais à prendre la peau, les histoires des autres, puis d'écrire sur ces histoires-là.
C'est ce qui m'a amené à cette réflexion-là.
Et puis au final, parce que la partie écriture, du moins, s'est faite il y a 2 ans, en pleine pandémie. Mais maintenant, je trouve que c'est peut-être mon album le plus personnel parce qu'on dirait que je me parlais... Je me suis comme parlé des prémonitions, des trucs comme ça, un petit peu... Je suis pas ésotérique, mais il y a comme quelque chose qu'on dirait que cet album-là prend un autre sens avec plein d'histoires qui sont arrivées après l'écriture. Mais comme cette chanson-là, c'était vraiment, pour faire la petite histoire, c'était un couple d'amis qui se séparaient, puis que là, je m'étais mis dans la peau de ce couple-là qui se questionnait beaucoup dans leur relation, mais c'est pas mon histoire à moi, mais je pense que dans n'importe quelle relation, que ce soit en couple, en amitié, des fois, on est comme obligé de refaire, on se rechoisit, on fait des bilans, puis on se rechoisit là-dedans, puis des fois, on a comme l'impression que le meilleur est ailleurs, là, mais...
C'est toujours regarder que l'herbe du voisin soit plus verte, alors que des moments, on a des trésors devant nous et qu'on les voit pas.
C'est en plein ça, puis il y a une chanson sur l'album que d'ailleurs, je parle de la pelouse du voisin, que je trouve son don, mais plus cool de l'autre bord, puis des fois, tu fais « OK, mais peut-être pas, là ».
Peut-être pas, non. Peut-être pas parce que tu la regardes pas avec les bons yeux, tu la regardes pas comme il faut.
En plein
voilà.
ça.
Donc, on va continuer. C'est peut-être cette forme d'écriture que tu dis, d'avoir pioché plus autour de toi que dans ta vie à toi.
Ouais, mais
qui
en
m'a
même...
donné ce sentiment-là. Voilà, aussi sur cet album.
Il y avait une genre de distance, mais en même temps, comme je te dis, maintenant, c'est peut-être parce qu'il est arrivé plein de situations plus intenses après, qu'on dirait que je m'y appropriais. C'est comme si c'était comme je m'étais écrit un discours pour me rassurer. Puis c'est un album que, même s'il y a un peu de mélancolie, je le trouve réconfortant. Je sais, en tout cas, personnellement, je trouve beaucoup de réconfort là-dedans, fait que dans ces chansons-là. Puis en spectacle, je me suis rendu parce qu'on a recommencé à faire des spectacles.
Et oui, c'est vrai.
Yes. Et c'est ça, puis je me rends compte que ça résonne chez les gens parce qu'au début, j'avais peur d'être un peu trop, OK, c'est-tu trop intime, c'est-tu trop... Et ça résonne vraiment chez les...
Chaque fois, quelqu'un se reconnaît dedans.
Oui, c'est
aussi.
Ça. Puis sur scène, j'aime beaucoup utiliser le monologue, l'humour, puis tout ça quand c'est le temps de parler, puis les chansons sont plus... plus sérieuse, plus deep, puis cette façon-là de fonctionner qui contrebalance les chansons, ça fait des spectacles qui sont vivants, puis je vois des gens qui pleurent vraiment sur certains textes, certaines chansons, puis après tout d'un coup, ben on va rechercher, on vient adoucir le tout avec de l'humour.
Ah bon, parce que tu en as?
Ah, un petit peu.
Alors là, on va faire une pause de quelques minutes et puis on revient ensuite avec toi.
Oui.
Et puis là, on va parler de la musique qui est faite sur cet album et dans le même temps, je vais te demander, sans musique, en direct, de nous faire une de tes chansons de cet album.
Merveilleux.
Voilà, donc, tu auras du temps pour te préparer, c'était ce que tu me demandais tout à l'heure, tu auras du temps.
Je m'inquiétais beaucoup à quand est-ce que je sortais ma guitare, je crois que c'est le moment.
Est-ce que c'est le moment pour nous aussi, Mathieu, ou pas tout à fait?
Je vais regarder ce que je peux faire pour toi et les auditeurs, mais oui, c'est le temps.
C'est toujours agréable de travailler avec lui. Allez!
Vous écoutez Le Pied dans la Porte avec Arlette Farah.
L'été souffle sur ma peau, mon t-shirt blanc sur le dos. J'ai appris par cœur mes lignes et j'ai des airs de James Dean. Je cours contre le vent en espérant que tu m'attends. Ça fait tellement longtemps que je répète ce moment. Chaque pas est calculé, chaque mot est étudié. Quand on nous verra à l'écran, je serai plus qu'un figurant. Tu m'as donné ton adresse en pleine saison de sécheresse. Ça m'a pris tout mon courage pour entreprendre le voyage. Mouvement de caméra, j'arrive enfin chez toi. La porte va s'ouvrir, je te donnerai mon âme et mon sourire. Chaque pas est calculé, chaque mot est étudié. Quand on nous verra à l'écran, je serai plus qu'un figurant. Tu prononces mon nom, tu te rappelles de moi. Je m'enfarge comme un con quand je m'approche de toi. J'en perds mes gestes, j'en oublie mon texte. Je voulais être parfait, mais rien ne l'est.
appelle au suivant. Celui-là avance vers toi avec la confiance d'un roi. Il pleut à torrents dans mon film en noir et blanc. Je savais par cœur mes lignes, mais je n'étais pas James Dean.
Alors, parle-nous un peu de cette chanson qu'on vient d'entendre. Parle-nous du thème musical de l'album et tout ça.
Ben, cette chanson-là, ça a été comme mon levier de création. C'était la première chanson qui s'est écrite pour l'album. Puis ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une histoire, là, vraiment un début, milieu, puis une fin. Je raconte quelque chose, puis je me suis dit que ça serait un beau moteur d'inspiration d'aller vers ça. Puis tranquillement, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de chansons qui sont sorties de cette période de création-là, j'ai en faisant le setlist lors des chansons, tout ça, il y a comme une histoire qui s'est comme dessinée, installé, vraiment. Donc, c'est vraiment cette chanson-là de James Dean a été comme ma raison de me lancer dans cet album-là. Puis en même temps, elle, c'en est une que je me reconnais beaucoup, beaucoup, mais avec une belle petite distanciation parce que je ne suis pas James Dean.
Ah bon?
Ah non, dommage. C'est ça. J'ai essayé de me faire croire que je l'étais. D'ailleurs, il y a comme sur l'album, il y a eu un gros shooting photo inspiré par James Dean avec le toupette et toute la patente.
Et le t-shirt blanc.
Ouais,
le
t-shirt blanc.
Vraiment, on a poussé loin notre affaire. Mais ça a été tout un travail de me rajouter quelques cheveux un bon moment donné parce que je vieillis tranquillement. Fait que James Dean, il était beaucoup plus jeune à l'époque que moi. Là, mais
Bichette, il est parti très vite aussi.
Oui,
très
en effet.
Donc, bref, là-dessus... ton accompagnement musical, toujours les mêmes qui reviennent et
oui, vraiment,
qui continuent avec toi?
Je travaille depuis 2014 avec Navet Confit, Jean-Philippe Fréchette de son nom complet, à la réalisation, puis il joue des instruments, puis tout ça. Puis sur scène, mon acolyte, c'est Jocelyn Pelichet, dans le fond... en studio, j'aime ça habiller mes chansons, mais en spectacle, j'ai beaucoup de plaisir
accompagner.
À vraiment, je veux dire, je joue de la guitare, tout ça, oui. Mais c'est vraiment en formule duo, deux guitares, puis c'est beaucoup plus simple à transporter à tous les. Puis même financièrement, ça se gère mieux. Et on a vraiment une très, très belle complicité. Fait que Jocelyn qui vient s'inviter là-dedans. Puis moi, j'ai tout le temps adoré. J'écoute principalement des chanteuses en vie, des voix féminines. Et Leonard Cohen, mais il y a beaucoup de chanteuses dans ce qui fait Leonard Cohen. Et j'ai invité mon amie Sophie Vaillancourt, que j'avais rencontrée à l'époque quand j'avais fait le Big Bazaar de Michel Fugain.
Oui.
Pour les Franco, il y a déjà
quelques
une dizaine
années.
D'années, c'est ça.
Il n'empêche que c'est un succès qui reste encore en mémoire.
Ouais, ben moi, c'est un des projets professionnels que j'ai le plus trippé. Et Sophie Pibon est restée très, très proche. J'avais travaillé pour son album, sur son album à elle aussi. Mais c'est comme vraiment mon trio. Puis je rajouterais quand même Ghislain Luc Lavigne qui est au mixage de l'album, qui travaille avec plein, plein de monde, là, Pomme. Vincent Vallière et compagnie, mais c'est vraiment devenu un nouveau membre du groupe Larche. fait que c'est vraiment ma petite équipe de création. Puis on a fait ça avec tranquillement, parce que toute l'écriture s'est faite tranquillement, l'enregistrement s'est fait tranquillement. Puis on a eu même le luxe de pouvoir choisir les chansons qui allaient se retrouver sur l'album, ce qui est pour moi, qui était une des premières fois. Souvent, je sortais un EP, mais j'avais pas nécessairement beaucoup de matériel pour dire « OK, celle-là va se retrouver sur l'album. » Vraiment, j'ai pu pousser justement mon concept de raconter mon histoire plus précisément parce que j'avais beaucoup de matériel avec moi. Là.
Alors justement, j'aurais envie de te dire, dans le choix du premier extrait,
ouais.
Pourquoi pas James Dean?
L'album est sorti depuis le mois d'août. C'est juste toi qui m'as invité sur le tard. Mais
quand il est sorti, moi, j'ai pas entendu cette chanson-là.
Non,
je l'ai pas
c'est
vu
le
sortir.
Premier extrait, c'était...
C'est ça que je te demande dans ton histoire de vie. Je sais qu'il est sorti l'été dernier.
L'histoire n'est pas finie, le premier extrait. Une autre chanson, parce que je trouvais que ça donnait le ton de... Puis tout le processus, quand ça a été le temps de le sortir, chaque chanson est accompagnée d'un genre de monologue un peu humoristique. Fait que ça sortait en single avec moi qui parlais, qui racontait des histoires en lien avec la chanson ou qui le lien des fois était un peu tiré par les cheveux. Mais bon, ça nous amenait à la
c'était
chanson,
ton côté
c'est
humour.
Ça. Oui, voilà. Et fait que ça sortit. Mais James Dean, je m'en souviens, ça a quand même été une chanson qui a trouvé sa place dans les radios et tout ça. Mais reste que c'est une formule qui est un peu plus...
Je sais pas pourquoi Mathieu il me fait signe que oui, non.
C'est pas ça du tout que je faisais. Je lui donnais une indication de temps en disant c'est
pardon.
Environ ça.
D'accord, j'ai cru au moment où il disait James Dean est bien rentré dans les radios.
Il doutait de moi, j'étais comme
Non.
J'avoue que Mathieu est un très, très grand fan de ce que je fais et il n'était pas d'accord parce qu'il aurait voulu que ça joue plus dans les radios, c'est
voilà.
Ça.
Et comme
c'est
là, je viens ça. Juste d'avoir le droit d'ouvrir mon micro, c'est exactement ce que je voulais dire.
Ça, tu disais juste que donnez-lui de la place encore plus dans les radios à ce large.
Excuse-moi, j'ai pas pu te recevoir avant parce qu'avant, je faisais une autre émission qui n'avait rien à voir avec la musique.
À vrai dire, je suis tellement heureux.
Tu vois, c'est la deuxième de la nouvelle émission, donc elle était tout de suite là. Oh. Alors, excuse-moi, je t'ai demandé quand même.
C'est extraordinaire et je veux que tu saches que je suis vraiment heureux d'être ici. J'ai fait une petite blagounette, mais...
Tu as le droit, c'était pour montrer ton sens de l'humour. Je te l'accorde, tu avais le droit de le faire. Bon, maintenant, tu as la guitare dans les doigts. Mathieu qui va arriver pour placer le micro. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter?
Je vais faire une banlieue de métaphore, qui est une chanson qui parle de la pelouse du voisin, de ce qu'on...
Du regard qu'on a sur...
Ouais, c'est ça.
Sur l'ailleurs.
Ouais, en plein ça. Puis des fois, ça raconte une petite histoire quand même, celle-là. Alors, aussi.
On t'écoute.
Ben, merveilleux.
Quand tu veux.
Merveilleux. On se lance.
J'envie la pelouse des voisins. Leur clôture et leur jardin. Chacun s'affaire sur son terrain. Moi j'essaie d'embellir le mien. Quand je salue les gens, on dirait que personne ne m'entend. Ils ont tous l'air indifférents. Peut-être que sourire, c'est fatigant. Je me réveille. Je rêvais. Chaque nuit, je rêve encore plus fort. Dans ma banlieue de métaphores. Je voudrais ralentir le temps, mettre les freins sur le présent, mais ça provoque des accidents, je m'en excuse constamment. Le chien du voisin vient vers moi. Lui donne la patte et tous les droits. Et quand je lui parle de moi, il sort les dents et il s'en va. Je me réveille. Je rêvais. Chaque nuit se transforme en cauchemar. Ma banlieue de métaphore. Allumer un un feu dans ma cour, brûler tous mes vêtements, être nu au grand jour, à hurler que je suis vivant, à hurler que je suis vivant. J'espère et je m'endors dans ma banlieue de métaphores. J'envie la pelouse des voisins, leur clôture et leur jardin, chacun s'affaire sur son terrain, personne ne remarque.
Merci, public en délire.
Alors moi, j'aime ça quand tu parlais de mettre le frein sur le présent. Non pas pour mettre le frein sur le présent, mais parce que je trouve que tout va trop vite. On regarde trop vers le passé, trop vers le futur et pas suffisamment dans le moment qu'on est en train de vivre. Donc, oui, c'est vrai. Mettre le frein pour, peut-être pas sur le présent, mais pour apprécier le présent.
Ouais.
Oui, je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je présume que tu as des nouvelles chansons sous le coude également, puisque tu prends le temps d'écrire, tu as eu du temps.
Oui, ben oui, oui. Puis il y a plein de projets qui vont sortir en plus.
Est-ce qu'on te voit sur scène bientôt?
Ça, c'est la partie qui se boucle au compte-gouttes.
Tu nous enverras un petit mot, on l'annoncera.
Oui.
Chaque fois. Mathieu va se faire un plaisir de mettre sa belle voix dessus en disant « Vous pouvez écouter l'Arche à tel endroit, telle adresse, tel jour, telle heure.
» Quand j'aurai l'information.
Dès qu'il aura l'information. Alors, il faut qu'on te dise une chose, c'est que dans cette émission, il y a chaque fois un chroniqueur ou une chroniqueuse. Et nouvelle émission, pas nouvelle chroniqueuse, parce que je l'ai eue, ça fait déjà des années que je travaille avec elle et que j'adore son travail. Donc, notre chroniqueuse, elle s'appelle Noémie Chélariou. Son but, c'est d'écouter une partie de l'émission, malheureusement, parce qu'après, il faut qu'elle le retravaille. Donc, d'écouter une partie de l'émission et de créer une chanson.
Okay.
Comme ça, au pied levé, sur ce qu'elle a entendu dans l'émission. Donc, elle est en ligne avec nous. Alors, on va déjà lui dire bonjour, Noémie.
Bonjour. Allô.
Bonjour, bonjour.
C'était tellement une super belle... c'était une belle énergie. Quand j'ai terminé d'écouter la première entrevue, OK, là, je suis allée dans mon petit monde créer la chanson. Quand je suis revenue, j'ai décidé de réécouter l'émission là où vous étiez rendue. Et là, j'entendais la voix de l'Arche, j'entendais la chanson, j'envie la pelouse des voisins, tout ça. Puis j'étais comme, oh, ils sont tellement dans un beau mood. Puis là, j'avais hâte de venir vous rejoindre.
Alors... Qu'est-ce que tu as retenu? Alors, la première partie de l'émission était avec M. Nattier. Oui, on a parlé des chants de gorge.
En fait, je me suis inspirée des propos de Jean-Jacques Nattier, en fait. Et puis, le premier mot qui m'est venu en écoutant sa voix, c'est « rigueur d'esprit ». Il me semblait un homme d'une grande rigueur. Ensuite,
il savait ce dont il parlait, ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'on s'est dit avec l'Arche.
Oui. Et puis, il m'est apparu une espèce de rêve du Grand Nord, un rêve où s'installe un grand froid. Et où est-ce que la seule source de chaleur et de communication, c'est les humains qui se placent face à face et qui laissent l'air traverser leur corps. Et un peu comme il expliquait, en fait, avec les chants de gorge. Et puis, je me suis imaginé que l'ultime but de ces chants-là, c'était de créer un éclat de rire, en fait.
Ben,
alors, j'ai écrit la chanson qui s'appelle « Jusqu'à l'éclat de rire ».
Alors, on t'écoute. Enfin, on l'écoute. Allons-y, Mathieu.
soudain figeait le mouvement. Pour se parler, toi et moi, nous n'avions plus que le vent. Nos deux corps faits de chair, l'air nous traverse lentement. Face au présent, écoute et réponds à mon chant. Vibre la glace, mystère blanc. Les voix s'enlacent et subtilement. Ouh, hey, ouh. Pendant que s'unissent nos sons, pendant que nous jouons, créons jusqu'à l'éclat de rire.
Bravo. Alors maintenant, vous êtes deux auteurs-compositeurs-interprètes tous les deux. Alors.
Ben oui. C'est... Puis là, tu as vraiment fait ça pendant le 15 minutes, là?
Pendant le temps de... Oui.
Hein? Pendant la première entrevue. En fait, est-ce que je peux t'appeler Larche?
Ben oui, vas-y fort, là. Mais en là, fait, je suis juste épaté.
En tant qu'auteur-compositrice-interprète, puis sûrement aussi, toi, tu peux te rallier à ça, il y aurait aucune raison que je puisse composer une chanson sur le sujet d'aujourd'hui, autre que d'être plongée au cœur de l'émission et de devoir faire une chronique. Donc, oui, là, j'ai pas le choix d'avoir écrit ça aujourd'hui, en fait, parce qu'on dirait que le contexte de l'émission me permet de jouer à me laisser inspirer par quelque chose de nouveau.
Ben, c'est magique. Tu viens de faire de la magie.
Oui, elle nous en fait régulièrement une fois par mois, là, maintenant.
Ben, félicitations.
J'adore ça. Ben. Merci. Puis, félicitations à toi aussi. J'ai pas assez entendu de tes œuvres, mais je vais prendre le temps de le faire.
Et moi, je vais plonger dans dans ton travail aussi, là.
Attention, t'en as pour une secousse. Ah. Ça fait la quatrième année, hein, Arlette?
Ah oui, ça fait la quatrième année qu'on travaille ensemble. Et au milieu de tous mes changements d'émission, bah pour ceux qui suivent depuis longtemps, donc j'ai eu pas mal de changements d'émission, Noémie est chaque fois restée comme chroniqueuse parce que je trouve que c'est une réussite parfaite que de l'avoir dans ce cadre-là. C'est toujours un beau cadeau aux invités, puis à l'émission. Puis là, il est dommage, comme on veut avoir la chanson en fin d'émission, je ne pouvais pas la laisser écouter toute l'émission et le faire après parce qu'on n'avait pas assez de temps. Mais sinon, ça aurait été un bonheur. Voilà.
Puis j'ai une mini-question encore. Est-ce que,
Vas-y, tu peux.
Puis ces chansons-là, est-ce qu'il y en a certaines que tu as gardées dans ton répertoire, que tu portes avec toi en spectacle, puis tout ça?
Sur mon prochain... sur le prochain album ou la prochaine thématique musicale que je vais sortir en mars, parce que je suis en train de définir des choses, il y a trois chansons que j'ai gardées qui ont été créés dans le contexte de l'émission, des émissions avec Arlette. Mais en général, ça fait une chanson qui est très dans le moment présent pour l'invité. C'est assez rare que j'y trouve des bouts de moi si personnels.
Oh, ouais.
Mais il y en a vraiment trois là que je le sais que c'était autant ma chanson que celle de l'invité. Et puis, je les ai gardées pour mon prochaine épopée musicale.
Wow.
Dont on aura la surprise parce que moi non plus, je ne sais pas lesquelles c'est. Je dois le dire, donc elle nous en fera la surprise. Alors, Larche, quels sont tes projets? De quoi peux-tu nous parler là maintenant? Avant qu'on se quitte, parce que quand même, c'est court de faire une heure d'émission.
Oui, ben c'est là, je sors un nouveau EP, à vrai dire deux EP incessamment dans l'année qui vient.
D'accord,
deux. Je me relance dans la création. Sinon, j'ai eu la chance l'année passée de tenir un rôle dans une série jeunesse qui va sortir cette année. Fait que d'accord. Ça aussi, c'est le fun, ça, c'est pour le comédien, que c'est agréable. Oui. Puis je me suis lancé
jeunesse,
dans
ça
la...
Ça veut dire que tu vieillis pas, quoi.
Là, je suis rendu que je joue le papa. puis sinon, je me suis lancé dans la scénarisation télé. J'ai des projets là-dedans. Puis fait que ça aussi, je trouve ça bien excitant comme nouveau champ d'activité à explorer.
Ah, c'est sympa, ça.
Oui. Ouais.
Comment c'est venu? Proposition, idée née de ton...
J'ai commencé par un cours d'exploration de d'accord. Tout ça. Ensuite, je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour en scénarisation. J'étais en train de faire mes classes, puis là, on développe des projets, tout ça. Puis sinon, avec une réalisatrice, il y a un projet là-dessus qui est en train de se développer.
Et puis, il nous dit « Je prends mon temps pour faire mes chansons », mais il ne dit pas qu'il prend tout ce qu'il fait d'autre à côté, quoi, en dehors. Mais la chanson va continuer quand
oui,
même.
Oui, oui, puis moi, mon je touche du bois. J'espère faire beaucoup de spectacles avec cet album-là. À date, comme je disais tantôt, la réaction est tellement positive. Moi, ça me procure beaucoup de plaisir et je sens aussi que c'est réciproque oui. Avec le public puis tout ça. Donc, puis ce que j'aime, c'est que les gens ne connaissent pas nécessairement les chansons, mais quand ils viennent en spectacle, c'est comme s'ils rencontraient l'univers ou du moins le personnage à travers tout ça qui porte ces chansons-là. Donc, je me souhaite beaucoup de spectacles avec l'album.
Oui, ben on te le souhaite aussi. Hey, Noémie, est-ce que tu as écouté la chanson James Dean?
J'ai entendu un petit peu de la chanson James Dean, d'accord. Mais à peine, j'ai surtout entendu la chanson qui disait « J'envie la pelouse du voisin », puis il y avait un bel accord avec une tension à la guitare.
Ouais, mais mon doigt a glissé sa mauvaise corde à ce moment-là,
non,
mais bon.
Non, c'était tout au cours de la pièce, il y a un accord oui. Qui est vraiment, vraiment efficace.
Oui, il y a un accord
merci,
qui est...
Merci.
C'est une erreur, là, en change pas cette erreur-là.
Mais non, mais moi, je l'adore, ma petite note de doigt qui a glissé, là, je trouvais que ça humanisait, sinon je suis un être froid.
Ah, oui, c'est ça. Non, j'ai adoré ça, cette tension-là. D'ailleurs, j'allais souligner ça. J'ai trouvé ça coloré et original.
Merci.
Oui. Puis,
oui, vas-y.
Ben, en fait, je te comprends quand tu dis, je parle à l'arche encore, je te comprends quand tu dis que t'aimerais beaucoup faire des spectacles dans le vivant avec ta musique. Il y a quelque chose qui fait battre le cœur pour vrai là-dedans.
Oui. Oui, oui.
Tu sais, d'aller faire exister ces chansons devant du monde. T'sais.
Puis quand tu vois vraiment là, que les gens, le tu sais, ça m'est déjà arrivé des contextes que tu sens que c'est un peu plus froid, mais à date, avec ces chansons-là, avec ce projet-là, je sens que ça va chercher quelque chose chez les gens, puis peut-être parce que aussi je les avais écrites, ces chansons-là, en les oui. Donnant à d'autres personnes, on dirait peut-être qu'il y a comme quelque chose qui va chercher chez, tu sais, le fameux cas, l'universel dans le personnel. Là.
C'est passé, c'est bien, ça passe bien, on va te voir sur scène là-dessus, tu nous enverras tes dates.
Oui.
Pour qu'on puisse dire, vous l'avez entendu? Ben, si vous ne l'avez pas entendu, écoutez, je vous signale à tous les deux que c'est une émission extrêmement sympathique, c'est agréable de vous entendre communiquer ensemble, mais nous arrivons à la fin de cette émission. Alors,
on se rappelle tantôt.
Je suis obligée de faire mes au revoir, sinon ça ne fait pas très poli, donc on dit merci. Merci à Jean-Jacques Nattier pour son livre « Art, chant et danse des Inuits ». Merci à l'Arche, bien sûr, pour son album « Il était une fois un garçon comme toi ». Merci Noémie Chelariou. Pour
merci
toutes
Arlette.
Les fois où tu viens et au mois prochain. Merci Mathieu Tessier, parce que sans lui, on ne peut rien pour la technique et les chansons. Ah bah oui, je suis obligée de le flatter pour pouvoir revenir la semaine prochaine.
Et que je rouvre ton micro.
Et puis, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais en tout cas, là, je te remercie parce que vraiment, j'ai eu du plaisir à te retrouver.
C'est toujours un plaisir de te retrouver.
Et je te retrouve, voilà, c'est la connexion s'est faite comme d'habitude, toujours aussi simplement. Merci à toi.
Merci à toi.
Et puis bonne continuation. Et puis Noémie, chez Lariou, nous vous préparons une nouvelle surprise pour le mois prochain. Que tu ignores, parce qu'elle ignore tous des invités avant de faire la chanson. Au revoir tout le monde, bye.
Au revoir.